Hey les filles, j'ai regardé un reportage sur Marsha P. Johnson qui est disponible sur Netflix.
Alors, il est comment?
Je vais vous raconter.
Mais parlez moins fort, soyez moins hystérique, calmez-vous.
Tout le monde s'adresse au ministre en disant bonjour, monsieur le ministre, et à moi en disant tout simplement bonjour.
Les femmes ont moins de place qu'avant dans les programmes d'histoire.
Je crois qu'il faut redonner aux hommes la place qu'ils ont dans la vie des femmes, c'est-à-dire pas la première place.
Ça n'est quand même qu'une nana.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvel épisode de Banana. Aujourd'hui, nous sommes accompagnés de Margot et de moi-même, Déborah. Et aujourd'hui, nous allons parler de Marsha P. Johnson, qui est une femme transgenre afro-américaine, travailleuse du sexe et aussi militante pour les droits LGBTQ+.
Elle naît dans le New Jersey avec 6 frères et sœurs. Son père travaillait sur une ligne d'assemblage pour General Motors et sa mère était gouvernante. Elle commence à porter des robes dès l'âge de 5 ans, mais doit arrêter pour ne plus affronter les moqueries de ses camarades d'école. Elle confie aussi s'être faite agresser sexuellement par un adolescent dans son enfance. À peine diplômée du lycée en 1963, elle débarque à New York et s'habille comme elle le souhaite avec un sac de vêtements et $15. Elle s'installe au quartier de Greenwich Village, où elle mène une vie instable, se retrouvant souvent à la rue, faute de travail et bataillant avec une maladie mentale. C'est donc comme ça qu'elle se retourne vers le travail du sexe. C'était compliqué de trouver un travail à l'époque.
Greenwich Village la surnommait Sainte Marsha, car elle était gentille, généreuse et elle donnait aux autres, même quand elle n'avait rien. En effet, elle a dû se livrer à des activités de rue pour survivre, notamment des activités sexuelles.
Et peu de temps après avoir déménagé à New York, elle fait la rencontre de Sylvia Rivera, qui est à l'époque âgée de 11 ans. Donc elles ont quand même 6 ans d'écart, mais elles sont directement tous les deux très amies, et elles sont tous les deux donc transgenres. Et Rivera dit plus tard de Johnson: elle était comme ma mère pour moi. Comme Johnson l'avait fait pour elle-même, elle a encouragé Rivera à s'aimer et à aimer son identité. Johnson adorait porter des tenues colorées et amusantes qu'elle fabriquait à partir de trouvailles dans les friperies et dans les objets jetés. On la voyait aussi souvent porter une couronne de fleurs.
Marsha P. Johnson a participé aux émeutes de Stonewall, donc petit rappel historique. Dans les années 60, aux États-Unis, beaucoup de lois discriminaient la communauté LGBTQ+. Il était interdit notamment de se travestir, de danser entre hommes ou de servir de l'alcool aux homosexuels. Et la police faisait régulièrement des descentes violentes dans les bars gays. Et donc Stonewall Inn était un bar gay à New York. Et le 28 juin 1969, une descente de police se fait dans ce bar. C'est la première fois qu'après une descente de police contre les LGBTQ+, les gens montrent leur mécontentement. On a une interview de Fred Sargent qui dit que Stonewall marquait une première dans de telles circonstances. Plutôt que d'accepter d'être arrêtés, les gens ont commencé à protester car ils étaient arrêtés. Et donc, Marsha P. Johnson a fait partie de ces personnes. C'est ce mouvement-là, le mouvement Stonewall, qui a mené à la première marche des fiertés, la première Gay Pride en juin 70. Et elle s'est déroulée à Chicago, et d'ailleurs, justement, Marsha P. Johnson y a participé, car c'est aussi une activiste militante dans la lutte des personnes LGBTQ.
En effet, les émeutes de Stonewall, c'est vraiment l'événement qui est considéré comme la première lutte des personnes gays, lesbiennes, transgenres, bisexuelles, contre un système oppressant soutenu par les autorités. Et donc, en fait, après la Gay Pride en 70, il va y avoir plusieurs groupes qui vont différents groupes plus ou moins radicaux, dont un qui, donc ça, c'est le Gay Liberation Front, qui est du coup plus radical, tandis qu'il y a la Gay Activist Alliance, qui est un groupe dérivé, plus modéré et ciblé. Et donc ça commence vraiment à émerger, ces groupes d'activistes.
Et elle fait partie, Marsha P. Johnson, du GLF, Gay Liberation Front, justement.
Elle a activement parlé de la transphobie dans le premier mouvement pour les droits des homosexuels. Et elle va même fonder aussi, en 70, avec Rivera, le Street Transvestite Action Revolutionaries, donc le STAR, et qui est une organisation qui est dédiée à l'hébergement des jeunes transgenres qui ont été rejetés par leur famille. Donc finalement, comme elles l'ont vécu, elles ne veulent pas que les jeunes vivent la même chose qu'elles ont vécu, elles.
Elle lutte aussi pour les droits des séropositifs. Donc, elle est engagée dans les années 80 avec une association internationale de lutte contre le sida qui s'appelle ACT UP. Elle-même a eu le sida en 1990 et elle en a parlé publiquement pour dédramatiser la peur qui était liée aux gens qui avaient cette maladie.
Au milieu des années 70, elle va participer au show drag Hot Bitches Et elle va être immortalisée par Andy Warhol dans une série de Polaroid, ce qui va la faire quand même encore plus connaître, parce que Andy Warhol était quand même très... c'était une vraie célébrité à l'époque.
Elle s'identifie beaucoup plus tard comme étant une drag queen. Donc, pour revenir sur le terme, le drag au 19e siècle, c'est la manière dont des acteurs s'habillaient avec des vêtements dits féminins à l'occasion de spectacles bal masqués. Et le terme drag queen arrive beaucoup plus tard, et c'est un terme qui désigne une personne qui se travestit pour exprimer son identité ou bien se livrer à des arts du spectacle.
Ce qui est important aussi de souligner, c'est qu'à l'époque, le terme de transgenre, ça n'existait pas vraiment encore. Et donc, au tout départ, elle se considérait comme une personne gay et travestie. Et au fur et à mesure, ça va, justement, avec tous ces mouvements homosexuels, tout cela va émerger. Et donc, le terme de transgenre va se mettre en place. Et elle explique que son rêve, c'est voir les homosexuels libres, détenir les mêmes droits que les autres Américains, les sortir de prison et de la rue. Mais malgré sa personnalité joyeuse et son sourire omniprésent, parce qu'elle était vraiment connue pour être
généreuse et
c'est ça, une sainte,
solaire,
elle a connu beaucoup de difficultés. Elle va connaître une série de problèmes de santé mentale et passe beaucoup de temps dans les hôpitaux psychiatriques. Elle continue également à se livrer au travail du sexe, ne sachant pas comment gagner de l'argent. Et elle continue à être arrêtée par la police. Malheureusement, le 6 juillet 1992, le corps de Marsha P. Johnson est retrouvé dans l'Hudson River. Sa disparition, qui intéresse alors peu l'opinion publique, est considérée comme un suicide. Sauf que tout son entourage, qui la connaît très bien, va contredire cette idée, parce que la connaissant, elle n'aurait jamais pu se suicider. Et donc, cette affaire va être réouverte ensuite en 2012, mais elle n'a toujours pas été élucidée encore aujourd'hui. Mais il y a un documentaire sur Netflix, dont tu as parlé, Déborah, en introduction, qui se nomme « Histoire d'une légende » et qui est justement réalisé par son amie Victoria Cruz et qui justement parle de cette histoire, qui parle d'elle et...
De leur rencontre et de comment c'était de vivre en tant que personne transgenre dans des années n'étaient pas...
Était difficile pour elle, ouais. Pour toute la communauté.
N'était pas assez tolérante.
Et donc dans le documentaire, il y a beaucoup de témoignages qui explique aussi que, de ses proches, qu'elle a été harcelée par un groupe de voyous quelques jours avant son décès. Et donc, ce serait peut-être la cause de sa mort. Elle aurait été tuée par un groupe de voyous. La ville de New York décide de lui rendre hommage. Donc, il y a deux statues, l'une à son effigie et l'autre à celle de son amie Sylvia Rivera, qui décède, elle, en février 2002. Et ensuite, ces statues, elles sont inaugurées à Greenwich Village, courant 2021. Et c'est toujours aujourd'hui un peu leur quartier fétiche. Enfin, c'est le tandem du quartier, de ce quartier.
Et élément qu'on n'a pas dit, mais qui est quand même
primordial,
c'est le P dans son prénom. Marsha P. Johnson, en fait, le P signifie « Pay it no mind », donc « N'y faites pas attention ». Et c'est un peu sa marque de fabrique, elle va le dire tout le temps, sa phrase
devise,
fétiche.
Ouais.
Ouais, voilà. Donc, merci de nous avoir écoutés. On va vous laisser avec la chronique de Mélissa. Et on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast.
À bientôt.
Merci de nous avoir écoutés. Bisous.
Coucou, c'est Mélissa Lapareille. Comme vous l'avez compris, Ellie Moxley a fondé l'Institut Marsha P. Johnson en réponse directe à l'épidémie meurtrière qui touche encore les femmes transsexuelles noires. L'objectif de cet organisme est de lutter au maximum contre la discrimination en matière d'emploi, de violence physique, d'incarcération ou bien le travail de sexe, de survie. La fondatrice, elle a toujours été inspirée par l'esprit de Marsha P. Johnson qui n'a jamais tenté de dissimuler sa différence et en a fait une force considérable. L'Institut contribue à créer plus de visibilité et d'espace pour mettre en avant des figures de femmes majeures trans noires. Ellie Moxley pointe du doigt une transmisogynie noire systématique à l'intersection de la misogynie, de la transphobie et du racisme anti-noir. Les femmes trans noires restent l'une des communautés les plus marginalisées encore aujourd'hui et les plus à risque dans le monde. Nombre d'entre elles sont exclues de leur cercle familial et de la société. Le seul espace qui s'ouvre à ces femmes est la rue. Le travail du sexe de survie s'installe dans leur quotidien. Selon une enquête américaine qui date de 2015 sur les transgenres, 20% des répondants noirs étaient au chômage, soit 4 fois plus que le taux national. Et 42% des répondants noirs ont déclaré avoir été sans abri à un moment de leur vie. Et 47% ont déclaré avoir été agressés sexuellement. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt, les nanas!